Sud Radio, le meilleur de vos animaux.
Natacha Harry vous accompagne durant l'été avec le meilleur de vos animaux. Au programme, les séquences qui vous ont marqué tout au long de l'année. Ce matin, ce sont nos amis chiens qui sont à l'honneur.
Sud Radio, le meilleur de vos animaux.
Vous écoutez le 10h-11h sur Sud Radio, le meilleur de vos animaux avec Natacha Harry. Avec ce matin, une question que tous les passionnés de chiens se sont déjà posée un jour. Comment se créent les races ? Eh bien, réponse avec Alexandre Balzer, président de la Société Centrale Canine.
Sud Radio, le meilleur de vos animaux, Natacha Harry.
Bonjour Alexandre Balzer, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour.
Alexandre, vous allez nous parler de votre parcours et puis nous allons peut-être aussi expliquer à nos auditeurs ce qu'est la Société Centrale Canine et surtout parler de ce défi important que doit relever la Société Centrale Canine. Il s'agit de produire des chiens qui soient non seulement des chiens beaux qui répondent aux critères esthétiques qu'on attend de chacune des races ou encore aux critères pratiques, mais surtout et avant tout des chiens en bonne santé. Parce qu'on a pendant trop longtemps sélectionné des chiens sur certains critères, en peut-être laissant de côté ces aspects santé, et on sait à quel point c'est crucial pour leur bien-être. Donc merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Et puis pour compléter toutes ces explications sur les races de chiens, il nous fallait une spécialiste. J'ai le plaisir de recevoir Maude Lafond. Bonjour Maude.
Bonjour Natacha.
Maude, vous êtes auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Ma Bible des chiens ». Autant vous dire que les races de chiens n'ont absolument aucun secret pour vous. Vous allez justement essayer de nous expliquer un peu l'histoire de ces races et comment, pour certaines d'entre elles, on en est arrivé à créer des dérives en favorisant peut-être certains critères physiques. Je pense aux chiens qui ont le nez écrasé ou aux chiens qui ont des plis sur la peau à l'excès au détriment de leur santé. Mais on va d'abord commencer avec vous, Alexandre Balzer. Alexandre, vous êtes vétérinaire. C'est nouveau qu'un véto soit à la tête de la SCC. C'est bien justement pour cette thématique sur la santé des chiens.
Alors oui, c'est nouveau. C'est la première fois qu'un vétérinaire accède à la présidence de la SCC. Oui, je pense que c'est quelque chose d'intéressant pour la santé du chien, même si depuis 140 ans que la SCC existe, beaucoup d'efforts ont été faits sur la santé. C'est vrai qu'effectivement, comme vous le rappeliez juste avant, au départ, la sélection se faisait essentiellement sur la beauté et sur le travail. Oui. Mais depuis maintenant une bonne dizaine d'années, effectivement, la SCC s'engage à ce que la santé arrive aussi. Enfin, il faut les trois. Il faut à la fois la beauté, d'être bon au travail ou à l'activité auquel ils sont destinés, mais évidemment, il faut aussi qu'ils soient en bonne santé, bien sûr.
Bien sûr, c'est crucial. Pouvez-vous rappeler quelles sont les missions de cette fameuse Société Centrale Canine à nos auditeurs qui ne savent peut-être pas exactement à quoi elle sert ?
Alors, la Société Centrale Canine, en fait, c'est une fédération sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Intérieur qui gère tout ce qui concerne le chien de race en France, et ça, donc, je l'ai depuis 1880. Et donc, c'est elle qui détient les livres d'origine et qui délivre donc les pédigrés des chiens de race. Et donc, l'objectif, c'est l'amélioration des races canines en France. C'est une des plus grosses fédérations du monde du chien au monde. Et puis, c'est elle qui gère en fait toutes les données cynologiques en France. Et puis, bien entendu, l'organisation des manifestations et des concours canins en France.
Donc, vous regroupez l'ensemble des clubs de races, puisque chaque race a son club, avec les éleveurs référencés au sein de ces clubs.
Oui, il y a à peu près, il y a plus de 350 races reconnues en France et elles ont toutes un club. Alors parfois c'est un club pour plusieurs races quand les races sont un petit peu petites, mais toutes les races ont leur club et c'est vers ce club qu'il faut se tourner si on a des questions particulières à propos d'une race ou à propos de son chien qui est dans une de ces races. Mmh.
Alors avant d'en venir à cette thématique sur ce défi santé que va devoir gérer la Société Centrale Canine ou en tout cas poursuivre, la Société Centrale Canine organise aussi beaucoup de manifestations autour du chien. Vous parliez des concours de race, mais ce sont aussi un tas d'activités physiques que l'on peut pratiquer avec son chien.
Oui, il y a des activités variées pour tous les chiens. C'est-à-dire que chaque chien peut trouver son activité et chaque maître peut trouver son activité. Vous avez l'agility qui est très connue, c'est ce parcours d'obstacles que le chien doit réaliser en un temps le plus court possible, mais le plus parfaitement possible. C'est le sport canin qui est actuellement très à la mode et il y a plus de 15 000 licenciés. Mais vous avez des concours un petit peu plus pointus et où il y a moins de monde. Vous avez par exemple le cavage qui est la recherche de la truffe. Mm-hmm. Donc on peut allier à la fois l'utile et l'agréable. Vous avez le canicross, ce sont des parcours où vous trottez, vous courez avec votre chien. Vous avez le cani-VTT, vous avez l'aubérythmé, c'est danser avec son chien, vous réalisez une chorégraphie.
Finalement, il y en a vraiment pour tous les goûts à vous écouter.
Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les goûts des maîtres et tous les goûts des chiens.
Et c'est important parce que ça permet vraiment de développer une jolie relation avec son chien. Voilà, on a un chien aussi pour ça, pour tous ces moments privilégiés qui sont accentués quand on pratique une activité physique avec lui. Alors, Alexandre Balzer, j'aimerais qu'on revienne sur ce thème qui nous tient à cœur, nous tous qui aimons les animaux, c'est bien sûr leur santé. C'est vrai que le goût des Français et des autres êtres humains, on va dire, parce que c'est vrai dans le monde entier, a fait qu'on a petit à petit sélectionné des races avec ce que l'on peut appeler des hypertypes, c'est-à-dire des caractéristiques que l'on va sélectionner à l'extrême, au point qu'à un moment donné, ça devienne un vrai problème de santé pour les animaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce phénomène et comment il a pris aujourd'hui une part trop importante finalement dans la sélection des chiens de race ?
En France, il y a par an à peu près 250 000 chiots de races qui naissent. Parmi ces 250 000, il y en a très peu, mais il y en a quelques-uns effectivement qui ont été trop sélectionnés. C'est-à-dire qu'on a sélectionné des faciès qui plaisent et parfois au détriment de la santé. Je parle évidemment de, par exemple, ces chiens qui ont le nez extrêmement écrasé, mais tellement écrasé que les narines sont devenues toutes petites, que les voies respiratoires sont tellement étroites que le chien n'arrive même plus à parcourir 100 mètres sans être tellement essoufflé qu'il ne peut plus bouger. Et ça, c'est quelque chose contre lesquels il faut absolument lutter. C'est un travail qui doit être collectif parce que malheureusement, on ne peut pas pointer simplement l'éleveur qui a créé cette race-là. Il faut pointer à la fois souvent les vétérinaires qui aident à accepter la reproduction de ces chiens, les juges qui peuvent parfois les mettre en avant, le public qui aime ces chiens parce qu'ils ont
des passions particulières. Oui, c'est ça, on a tous une responsabilité finalement.
On a tous une responsabilité. C'est impossible de dire c'est tel personnes ou tel groupe de personnes qui ont la responsabilité, c'est collectif et c'est tous ensemble qu'il faut mener cette lutte contre les hypertypes pour le bien-être du chien. Mmh. Ça, c'est très important. Et au sein de la SCC, on met en place on a un service santé pour génétique qui permet justement d'essayer de trouver des pistes pour lutter contre ces hypertypes. On a par exemple mis en place pour les... Ben justement, je vous parlais des chiens brachycéphales, c'est-à-dire ces chiens avec le nez très aplati. On a mis en place un test fonctionnel, c'est-à-dire on fait marcher le chien pendant 5 minutes et on regarde lesquels sont arrivent à respirer normalement finalement pour faire leurs efforts.
Et ben c'est ce qui paraît normal, mais finalement c'est bien de revenir à l'essentiel. C'est un retour aux bases.
Oui. C'est un retour aux bases et c'est pour ça que quand vous avez dit que je suis vétérinaire et qu'on va s'intéresser beaucoup à la santé, c'est pas forcément des tests très poussés de génétique, de radiographie, choses comme ça, c'est aussi la base. Il faut que le chien vive bien et longtemps.
Oui. Maud Lafont, vous qui êtes une spécialiste des races de chiens, avez-vous d'autres exemples à nous citer justement de sélection comme ça à outrance?
En fait, Alexandre a raison, hein. C'est une responsabilité collective, c'est pas uniquement la faute des éleveurs et de la sélection canine.
Ça oui, c'est aussi un goût de la société qui, à un moment donné, bien sûr.
Qui souhaite un chien toujours plus gros, toujours plus impressionnant, toujours plus extraordinaire au sens propre du terme. Et c'est vrai que ça conduit à des animaux hyper typés, c'est-à-dire qui ont des caractères physiques poussé à l'extrême, donc vous parliez des plis, le museau écrasé, les bergers allemands aussi qui ont l'arrière-train très rabaissé et qui de ce fait sont très souvent dysplasiques et ont des gros problèmes locomoteurs. C'est tout un ensemble de critères physiques qui ont été exagérés, des molosses beaucoup trop gros, avec des têtes trop grosses. Forcément les chiots ont des têtes trop grosses aussi et ne passent plus, la filière pelvienne ne peut plus, la chaîne ne peut plus mettre bas naturellement ce sont des césariennes systématiques, donc c'est, ça entraîne des problèmes de bien-être pour le chien qui ne peut plus vivre normalement et carrément des problèmes de santé. Hein. Donc c'est vrai que la responsabilité est collective et du coup, tout le monde doit réagir. Donc le club, le public, en ne sollicitant plus les éleveurs pour avoir des chiens extrêmes. Mm-hmm. Et je pense qu'on peut redresser la barre comme ça. Il y a le test dont on parlait, Alexandre, là, pour les races brachycéphales. Il y a d'autres mesures qui ont été prises. Hein. Les standards ont été revus par les clubs de races qui les détiennent pour gommer un peu tous les superlatifs.
Alexandre, pouvez-vous peut-être nous expliquer aussi le fonctionnement d'un standard de race ? Ça veut dire quoi ?
Un standard de race, c'est la description précise du chien parfait que l'on aimerait avoir dans la race. Par exemple, d'accord, si je prends le berger allemand, le standard du berger allemand vous décrit le berger allemand parfait.
Mais c'est une description qui est uniquement physique ?
C'est une description qui est uniquement physique, effectivement. Mm-hmm. Alors, il y a quelques critères de comportement, c'est-à-dire qu'on écarte les chiens agressifs ou les chiens extrêmement peureux, généralement. Mais ça reste essentiellement purement extérieur.
Oui.
Et c'est pour la reproduction qu'après, il est nécessaire, ou il est très fortement recommandé, de faire des tests de santé pour être apte à la reproduction. Mm-hmm. Mais au départ, c'est effectivement le standard est fait pour les expositions canines et on recherche des chiens qui se rapprochent le plus possible du standard. Donc, si le standard accepte les excès, évidemment.
Et comment se fait-il qu'on en soit arrivé à un moment donné, justement, à aller chercher des excès ? En quoi un berger allemand qui a le train arrière très bas est plus beau qu'un berger allemand qui ne l'a pas ?
Alors ça, ce sont des modes, et on voit d'ailleurs dans beaucoup de races, lorsqu'on voit l'évolution des photos des races de chiens, on voit une évolution, et c'est vraiment la mode et l'attente des gens, des spectateurs, mm-hmm, des consommateurs, qui font changer la race. Alors il y a des fois c'est dans le bon sens, des fois c'est dans l'excès, puis très franchement souvent l'homme va dans l'excès et puis on veut des chiens plus musclés, plus gros comme disait Maud. C'est vrai que de temps en temps c'est chez le Terre-Neuve, c'est un moment la mode d'avoir des chiens extrêmement lourds, oui, mais on a des pathologies qui vont avec. Donc c'est les clubs de race qui sont vigilants à ça, qui parfois modifient un peu le standard pour que justement on élimine ou on ne favorise pas certains chiens hypertypés.
Mm-hmm. Et au contraire, certains chiens ont été dans certaines races on a davantage sélectionné des sujets par rapport aux critères santé, Maud ?
Oui, alors après, c'est bon, là justement, puisqu'on revient en arrière par rapport à ça, il y a des races qui ont émergé récemment. Je pense par exemple au Bulldog Continental qui a été clairement pour être un critère santé, pour être un chien qui peut faire du sport. Il ressemble au bulldog anglais, mais en version beaucoup plus allégée.
Oui.
Et le club de race qui gère ce chien revendique la valence santé, c'est-à-dire que ces chiens-là ont été sélectionnés pour être plus dynamiques, plus sportifs, pour pouvoir vivre normalement. Mm-hmm. Attention, je ne dis pas que le bulldog anglais classique est un chien a systématiquement un problème, ce n'est pas le cas. Hein. Tous les chiens à museau écrasé ne sont pas hypertypés et n'ont pas des problèmes de santé, fort heureusement.
Oui, on ne peut pas généraliser, mais
non, faut pas généraliser.
On sait
problème,
qu'il y a quand même une tendance de fond, malgré tout, avec un risque accru dans certaines races.
Il y a un risque accru, mais ce n'est pas systématique, fort heureusement.
Et on a de très très bons résultats sur certaines races. Hein. Maud parlait tout à l'heure du berger allemand qui avait ce problème de hanche, et ça fait une bonne quinzaine d'années, presque 20 maintenant, que le club de race travaille justement. Alors là, c'est des radios, cette fois-ci le test n'est pas un test fonctionnel, c'est des radiographies
parce que là,
de hanche.
On parle de dysplasie de la hanche, donc d'une malformation hein, de la hanche.
Mais il y a 20-25 ans, il y avait largement plus de la moitié des bergers allemands qui étaient dysplasiques. Oui. Et maintenant, cette proportion a très 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 nettement diminué. On en voit de moins en moins grâce à cette sélection et au travail du club de race et bien entendu des éleveurs.
Quels sont les leviers possibles à la fois pour les éleveurs, car j'imagine qu'ils sont particulièrement soucieux du bien-être des animaux qu'ils font naître, mais aussi pour la SCC, sur quoi pouvez-vous agir pour faire en sorte qu'on ne fasse plus naître des chiens qui sont simplement à la mode pour des critères qui n'ont pas lieu d'être et qui sont contraires à leur bonne santé ?
Alors, il y a avec les clubs de race, on travaille la main dans la main avec le club de race. On ne va pas aller contre, ce serait absolument contre-productif. Donc, on a le même but, donc on travaille bien ensemble. Et du coup, on met en place des grilles de sélection qui permettent, quand vous avez un reproducteur, plus il a de cotation, c'est-à-dire plus il est beau, plus il a eu des résultats de travail, et plus ses résultats de santé sont bons, plus il est coté. Et donc, c'est un gros travail pour répertorier ces reproducteurs cotés et les mettre en valeur. Mmh. Et puis après, c'est beaucoup de communication aussi pour que le public soit au courant qu'il y a des éleveurs qui font du très bon travail et qu'il vaut mieux passer par eux.
Et justement, comment trouver le bon éleveur quand on a en tête une race qu'on affectionne particulièrement? Comment faire pour trouver un éleveur sérieux? Et que doit-on regarder? Que doit-on lui demander pour être sûr de minimiser son risque de soucis de santé sur l'animal que l'on va prendre?
Pour rechercher un éleveur, le plus simple, vous pouvez aller directement sur le site de la Société Centrale Canine.
Oui.
Et puis, vous pouvez contacter aussi le club de race. Donc là, vous tapez sur un moteur de recherche « club de race de la race qui vous intéresse » et vous pouvez directement contacter, via leur site internet, vous pouvez contacter le club de race qui ont des élevages sélectionnés. Et les élevages sélectionnés ou recommandés, ce sont des élevages qui... signe une charte qui s'engage justement à faire tous les examens de santé, de bien-être, etc. pour avoir le plus de chances d'avoir un chien beau, bon et en bonne santé.
Et quels sont les recours possibles pour une personne qui fait l'acquisition d'un chiot et qui se retrouve avec une pathologie vraiment très lourde derrière, à caractère génétique, c'est-à-dire quelque chose qui aurait peut-être pu être décelé au préalable?
Les recours, c'est d'appeler immédiatement l'éleveur et puis de voir avec lui comment on va gérer le chien. C'est le chien qu'il faut mettre en avant et donc c'est voir comment on peut améliorer la vie de ce chien. Le dialogue est, je dirais, la principale source d'effort qu'il faut avoir. Après, évidemment, on a tous les recours juridiques possibles. Le club de race ou la Société Centrale Canine ne sont pas une justice, donc nous ne faisons qu'émettre des recommandations pour les éleveurs, mais on n'a pas d'autorité de police.
Bien sûr.
Donc après, c'est surtout dialoguer avec son éleveur, et puis après, c'est tous les recours judiciaires qu'on peut avoir éventuellement.
D'où le fait de prendre le temps de se renseigner, d'aller dans l'élevage, de rencontrer l'éleveur, de voir les reproducteurs.
C'est très important. C'est très très important d'aller voir les conditions de vie des chiens, de voir les parents, de voir la mère, de voir son comportement, de voir son physique. Et puis bien discuter avec l'éleveur, parce que parfois on rêve d'avoir un Saint-Bernard dans son appartement, mais c'est pas forcément adapté au mode de vie. Donc c'est la discussion qui permet justement de savoir ce que l'on doit faire.
Maud Lafont, quelles sont les races aujourd'hui qui ont particulièrement la cote auprès des Français?
Depuis quelques années, c'est surtout des races bergères. Le chien numéro un, c'est le berger australien,
oui,
qui plaît beaucoup. De par son physique.
Qui n'est pas forcément très adapté à une vie citadine, par exemple.
Qui n'est pas forcément adapté à une vie citadine, qui peut l'être, mais qui a besoin de beaucoup d'exercices physiques et de stimulation mentale. C'est un chien qui a besoin de travailler. Donc c'est vrai qu'on peut craquer sur le physique de ce chien, mais il faut vraiment se renseigner, aller voir les éleveurs et être conscient que c'est un chien qui va demander pas mal d'activité et donc pas mal de temps. Il y a le Staffy aussi, le Staffordshire Bull Terrier, qui est très à la mode, qui est un chien très demandé. Les bergers belges, le berger belge toujours, berger belge malinois surtout. Le berger allemand reste aussi un chien à la mode. Les retrievers comme le Golden ou le Labrador. Depuis une bonne vingtaine d'années, c'est vrai que le top 20 des races de chiens préférés des Français reste sensiblement le même, avec des inversions, dans le top 3
top
5, voilà.
Merci beaucoup, Maud Lafont. Je rappelle le titre de votre ouvrage à acheter, hein, si vous souhaitez faire l'acquisition d'un chien. Il est vraiment, c'est une bible d'information, c'est le cas de le dire, puisque ça s'appelle Ma Bible des chiens, c'est aux éditions Le Duc Pratique. Merci à vous, Alexandre Balzer, et bon courage pour cette lourde mission qui vous attend et les consultations qui arrivent, puisqu'on entend la sonnette derrière vous.
Merci
beaucoup, à vous,
bonne
Alexandre.
Journée.
Très bonne journée.
Sud Radio, le meilleur de vos animaux.
On se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec la rubrique que vous êtes nombreux à attendre, à l'état sauvage. Retour sur un sujet qui vous a marqué, la conséquence de la déforestation sur la faune sauvage.
Sud Radio, le meilleur de vos animaux.
Vous écoutez le meilleur de vos animaux avec Natacha Harry, que vous retrouverez bien évidemment à la rentrée sur Sud Radio. Retour sur un sujet qui vous a marqué, la conséquence de la déforestation sur la faune sauvage.
Sud Radio, le meilleur de vos animaux, Natacha Harry.
Et ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Goffier, directeur des programmes au WWF France. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Dans votre dernier rapport, le WWF déplore la perte d'au moins 43 millions d'hectares de forêt entre 2004 et 2017. Un constat alarmant sur la situation des forêts mondiales. Et avec vous, on va parler bien sûr de l'impact de cette déforestation sur la faune dans ces différents pays. Mais d'abord Arnaud, peut-être pouvez-vous nous décrire un petit peu cette situation que vous expliquez dans ce rapport, 43 millions d'hectares de forêts disparues finalement une grosse dizaine d'années, ça concerne à peu près combien de régions du monde ?
Alors oui, ce qui est important de souligner, c'est que là on s'est en plus focalisé uniquement sur les forêts tropicales, donc on n'a pas considéré les forêts tempérées ou les forêts boréales, ce qui se passe en Sibérie par exemple, qui est aussi catastrophique. 43 millions d'hectares, hein, pour bien se rendre compte, c'est à peu près 80% de la surface de la France métropolitaine, donc c'est une surface considérable. Et ça touche toute la bande tropicale, toutes les forêts tropicales, donc le bassin amazonien qu'on a tous en tête,
oui,
mais des régions comme le Cerrado aussi, qui sont une région un peu plus au sud de l'Amazonie, qui est un peu moins connue, mais qui est très riche aussi en biodiversité, en faune. Le bassin du Congo, en Afrique centrale, Madagascar, l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie, Bornéo, et l'Australie.
Alors avant de développer avec vous l'impact de cette déforestation sur la faune de ces différentes régions du globe, peut-être faut-il une fois de plus revenir sur l'origine de cette déforestation. Pourquoi coupe-t-on ces forêts ?
Alors les causes, elles sont multiples. On va souvent penser à l'exploitation du bois. Oui, c'est une cause de déforestation. Ce n'est pas la cause majeure. La cause principale à l'échelle mondiale et pour les zones tropicales, c'est l'extension de l'agriculture. Donc on a besoin de plus en plus de surfaces agricoles pour nourrir du bétail, pour faire pousser du soja. Et nous, en Europe, finalement, ça peut nous paraître très loin puisque c'est de la déforestation qui a lieu dans la zone tropicale. Donc loin de chez nous, on se dit on n'a pas forcément d'impact à notre niveau. Et en fait, si, puisqu'on importe chaque année, je prends juste un exemple, mais il y en a d'autres, on importe beaucoup de matières premières qui sont issues de cette déforestation, oui, la première étant le soja pour nourrir nos animaux d'élevage. Mmh. On importe un peu plus de 3 millions de tonnes en France, 35 millions de tonnes en Europe.
L'Union européenne serait visiblement responsable de près de 10% de la déforestation mondiale de par ses importations.
C'est ça, uniquement via les importations, un peu plus de 10% de la déforestation mondiale. Donc si on veut avoir un impact, si on veut essayer de laisser un peu d'air libre aux forêts, il y a un moyen assez simple à titre individuel, c'est de manger moins de viande et puis de manger de la meilleure viande, c'est-à-dire nourrie, sans soja importé, donc avec de l'alimentation locale.
Mmh. Alors la déforestation, on le sait, mais là encore, c'est peut-être aussi important de le rappeler, elle a déjà en premier lieu un impact sur le réchauffement climatique, parce que ces forêts jouent un rôle dans la régulation du climat à l'échelle de la planète.
Exactement, quand ces forêts brûlent, elles relarguent du CO2, du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, donc elles contribuent au réchauffement climatique. Et en plus de ça, le fait de les détruire, ça prive l'humanité de ce qu'on appelle un puits de carbone, puisque quand les forêts poussent, elles absorbent du CO2 de l'atmosphère et elles le stockent, elles le retirent de l'atmosphère et donc limitent le réchauffement climatique. Donc on a un double effet.
Alors c'est vrai que la crise du Covid a malheureusement fait un peu oublier cet enjeu climatique au niveau mondial et donc l'enjeu lié à la déforestation et à la lutte contre cette déforestation parce que tous les efforts de la planète se sont tournés vers la lutte contre ce coronavirus. Mais peut-être faut-il aussi souligner que tout cela n'est peut-être qu'un seul et même combat parce que aujourd'hui la pandémie que nous subissons est en lien étroit avec notre trop grande proximité avec la faune sauvage.
Exactement. La déforestation, lutter contre la déforestation, c'est une manière d'anticiper et de se prémunir de nouvelles crises sanitaires comme le coronavirus. Mmh. Là, on est dans le curatif actuellement, mais il faudrait faire un peu plus de préventif en préservant les forêts.
Alors, bien sûr, cette émission, elle est consacrée aux animaux. Donc, ce qui nous intéresse très particulièrement ce matin, c'est que vous nous expliquiez les conséquences de cette déforestation sur la faune. D'abord, peut-être parlons de l'Asie du Sud-Est.
Eh bien, en Asie du Sud-Est, les exemples sont assez connus depuis longtemps. Les questions de déforestation liées à la production de l'huile de palme sont un peu dans toutes les têtes, mais avec des impacts forts sur l'habitat des orang-outans, par exemple, qui sont maintenant réellement à risque de disparition sur Bornéo, l'île de Bornéo. Toujours sur Bornéo, si on se place un peu sur un autre front de déforestation, dans les zones de mangroves, les zones de mangroves aussi sont vraiment impactées pour favoriser l'élevage de crevettes. Mmh. Et encore une fois, pour l'exportation en Europe encore. Donc même les crevettes qu'on importe d'Asie du Sud-Est ont un impact sur la forêt. Ça peut paraître bizarre, mais c'est le cas. Et là, c'est par exemple le nasique, qui est le singe nasique, qui est très très fortement impacté, qui est une espèce endémique de Bornéo et qui commence à être à risque de disparition.
Donc finalement, notre consommation quotidienne a vraiment un impact sur ces espèces que pourtant on admire et auxquelles je pense la plupart d'entre nous n'avons pas envie de porter atteinte, mais on ne s'en rend pas compte par nos gestes du quotidien, par notre consommation, par nos achats, eh bien on atteint directement ces espèces. Est-ce qu'en Amazonie c'est la même chose, Arnaud Goffier ?
En Amazonie, c'est un peu pareil. On citait l'exemple du soja. Hein. Donc, de plus en plus de surfaces de soja cultivées pour importer et nourrir des volailles, des porcs, des vaches laitières en Europe. Et ça, c'est l'habitat, par exemple, du fourmilier géant, qui est une espèce assez très caractéristique du Cerrado et mmh. du sud de l'Amazonie. Le fourmilier, c'est vraiment, faut aller le voir en photo ou en vidéo, hein, c'est quand même assez marrant comme animal. Hein.
Avec sa grande langue.
Exactement, et c'est un animal qui est endémique de cette zone, tout comme le loup à crinière. Oui. Le loup à crinière, c'est un superbe animal. C'est un peu un loup très très haut sur pattes, de couleur roux. Et avec une crinière, une petite crinière, un petit peu comme un lion. Donc c'est un mélange entre un loup et un lion. C'est très particulier comme espèce et c'est complètement endémique du Cerrado.
Et finalement, qu'est-ce qui se passe si ces espèces disparaissent ? Quelles sont les conséquences pour la planète ?
Les espèces qui disparaissent, ça a des conséquences en cascade. C'est-à-dire que derrière, ça affaiblit les écosystèmes et le fonctionnement des écosystèmes. Donc tout simplement, ça a été montré, si vous avez des espèces d'oiseaux qui disparaissent, derrière, la dissémination des plantes via les fientes des oiseaux, via leurs excréments, se fera moins bien. Et donc, les forêts peuvent être menacées parce que les espèces d'oiseaux ont disparu. Ou alors, la disparition des espèces, on parlait du stockage de carbone, la disparition des oiseaux ou d'autres mammifères, d'autres types de mammifères, par exemple, peut mettre à mal la capacité de stockage de carbone des forêts, puisqu'elles se régénéreront moins vite.
Mmh. Est-ce que l'Afrique est concernée au même titre que l'Asie du Sud-Est ou l'Amazonie dont on vient de parler ?
Alors l'Afrique jusqu'à présent, et notamment le bassin du Congo, donc vraiment le cœur de l'Afrique, la RDC, le Congo-Brazzaville, le Gabon, étaient assez préservés de cette déforestation à échelle industrielle. Là, on a des signaux inquiétants. On voit des plantations industrielles d'huile de palme et de cacao qui sont des projets qui sont en cours. Et donc, oui, ça augmente. Les fronts se déplacent en Afrique centrale, avec là toutes les espèces de grands singes qui sont menacées.
Et notamment les gorilles. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il existe des solutions ? Parce que là, on fait un constat qui est un constat alarmant. Mais que faudrait-il faire pour éviter d'aggraver encore la situation, voire de revenir à une situation plus équilibrée ?
Alors, il y a des solutions à différents niveaux. À l'échelle individuelle, je vous en parlais, manger moins de protéines animales, moins de viande, moins de poissons d'élevage, parce que les poissons d'élevage consomment aussi beaucoup de soja. Ça, c'est une solution assez simple. Moins et mieux, donc du local, nourris à l'herbe pour les vaches, pour les bovins, nourris avec des protéines végétales, des céréales cultivées localement pour les volailles, les porcs. Ça, c'est une première solution.
Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, le niveau d'information des consommateurs est suffisamment élevé pour qu'on ait conscience réellement de ce que l'on achète et qu'on ait cette connaissance ?
Ah non, pas du tout, absolument pas. Hein. Sur la question liée au soja, par exemple, et l'alimentation des animaux, il y a très peu de transparence. Et il y a d'autant moins de transparence que rien ne vous garantit quand vous allez acheter votre poulet à 10 km de chez vous, directement chez le producteur, qu'il n'a pas été nourri avec du soja qui provient du Brésil et issu de la déforestation. Il faut lui poser la question pour le savoir, en fait.
Donc c'est peut-être aussi sur ce point-là qu'il faudrait travailler, parce que je ne doute pas que beaucoup de consommateurs aient envie de bien faire. Simplement, ils n'ont pas forcément l'information à disposition.
Oui, oui, tout à fait. Alors là, je vous parlais des solutions à l'échelle individuelle. Il y a effectivement, après, un problème d'information. Donc l'affichage environnemental, qui est quelque chose qui est en train de se développer, comme on a le Nutri-Score sur les aliments.
Avec ces lettres qui nous indiquent la qualité nutritionnelle des aliments que l'on achète.
Exactement. On va peut-être aller vers la même chose du point de vue de l'impact environnemental des aliments. Donc ça, c'est une première façon d'informer le consommateur. Mm-hmm. Et puis après, au niveau réglementaire, l'Union européenne là, est en train de plancher sur une réglementation pour interdire l'importation des matières premières issues de la déforestation en Europe. Mmh. Donc ça veut dire qu'en 2022, si ça s'est adopté, on ne pourra plus importer de soja, d'huile de palme, de cacao, de café issues de la déforestation. On continuera à en importer, hein, mais il faudra que ce soit garanti. Zéro déforestation.
Vous qui êtes très impliqué sur l'ensemble de ces sujets, est-ce que vous avez l'impression que les décideurs au niveau européen vraiment commencent à prendre conscience de l'importance de faire des efforts sur tous ces sujets ?
Ça commence.
Ou est-ce qu'on est simplement dans une posture ?
Non, ça commence. Le fait qu'on ait ces discussions sur une loi, c'est vraiment un signe de prise de conscience. Mais c'est aussi la conséquence du fait que toutes les initiatives volontaires, c'est-à-dire non réglementaires, n'ont pas marché. Mmh. Ça fait 15 ans que les gouvernants et les entreprises jurent la main sur le cœur qu'ils mettront fin à la déforestation. D'ailleurs, tout le monde s'était engagé, gouvernement comme entreprise, à arrêter la déforestation en 2020. Oui. On voit que personne n'y est parvenu.
Et la crise actuelle donc du Covid certainement n'aide pas dans cette situation, j'imagine. Complique les choses pour vous au niveau associatif.
Alors oui, ça complique les choses tout simplement d'un point de vue de nos opérations sur le terrain déjà. Ça c'est une première chose, mais bon, comme pour tout le monde,
oui.
Ça complique les choses aussi, évidemment, la situation économique complique les choses pour avoir aussi récupéré des financements, hein, ça c'est clair, mais c'est la situation la même pour tout le monde aussi. Et puis vous l'avez dit, l'agenda, les priorités ont un peu changé. Mmh. On est vraiment sur une priorité sanitaire actuellement. Mais encore une fois, je le répète, si on veut éviter les nouvelles crises du type Covid, il faut préserver les forêts. On sait très bien que ce type de pandémie est lié aux atteintes à l'environnement. C'est la même chose pour Ebola. Ebola, c'est issu de la viande de brousse, donc c'est issu du fait qu'on aille chasser et manger des animaux sauvages, et c'est ce qui a fait passer Ebola à l'homme.
Eh bien, merci beaucoup Arnaud Goffier pour l'ensemble de ces explications. Je rappelle que vous êtes directeur des programmes au WWF France et que votre association vient de publier un nouveau rapport sur l'état de la déforestation mondiale.
Sud Radio, le meilleur de vos animaux.
Sujet passionnant qui vous a été proposé par Natacha Harry. Dans un instant, nous parlerons de tout autre chose avec, vous allez voir, des chiens très spéciaux. Alors restez bien avec nous sur Sud Radio.
Sud Radio, le meilleur de vos animaux.
Avant de retrouver Laurence Perrault et Jean-Luc Moreau à 11h pour On parle auto, c'est le meilleur de vos animaux avec Natacha Harry. Elle vous présente des chiens très spéciaux qui peuvent nous aider à lutter contre la Covid.
Sud Radio, le meilleur de vos animaux, Natacha Harry.
Pour nous en parler, j'ai le plaisir de retrouver le professeur Dominique Grandjean. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Vétérinaire, professeur à l'école vétérinaire de Maison Alfort, vétérinaire, sapeur-pompier également. La liste est longue hein, de toutes vos missions. Et vous voilà à la tête d'un magnifique projet pour former des chiens au dépistage de la Covid-19. Dites-moi Dominique, on connaissait les chiens détecteurs du cancer, on connaissait le flair du chien capable de faire des choses incroyables, mais là, des chiens capables de détecter des personnes porteurs de la Covid-19, c'est quand même assez surprenant. Comment tout cela a démarré ?
Ça a démarré, comme vous l'évoquiez, on a sur l'école vétérinaire d'Alfort un programme qui s'appelle Nosaïs, qu'on a lancé il y a presque 3 ans maintenant, et qui tourne sur à la base sur la détection de cancer du côlon. On fait ça avec l'Université de Beyrouth au Liban, en mettant des compresses entre les fesses des gens pendant 5 minutes, et on a des résultats qui sont 100 à 100% hein, sur 150 patients. Et on était dans mon bureau tout début mars, et la discussion est venue sur Covid, et on s'est dit, après tout, pourquoi pas essayer. Il y avait peu de bibliographie, la seule, c'était des essais sur culture cellulaire qui montraient que les chiens étaient capables de marquer les cultures cellulaires spécifiques à plusieurs types de virus. Donc on a réfléchi à ce qu'on allait prendre comme prélèvement. Le principe, ce n'est pas de rechercher le virus hein, pour le chien, c'est de rechercher la trace de fonctionnement du virus. Le virus, quand il entre dans les cellules, il se réplique, il se multiplie, il produit ses propres substances toxiques pour l'organisme.
Oui.
Donc on va rechercher en fait ces molécules ou des morceaux de ces molécules.
Ça veut dire concrètement, pour parler vraiment de manière très pragmatique, ça veut dire qu'une personne qui est porteuse de ce virus va dégager une odeur liée à la présence du virus que le chien va être capable de reconnaître.
Oui, tout à fait. Tant que le virus est actif, même s'il ne génère pas de symptômes, il peut être actif et continuer de se multiplier, donc faire en sorte que la personne soit contaminante. Ces molécules, elles ressortent. Alors, on essaye de les isoler actuellement. On a deux laboratoires, en particulier l'hôpital Foch, qui travaille avec nous là-dessus. Donc, on va bien finir par savoir ce que sont ces molécules. Mais dans l'immédiat, ce qu'on sait, ce qu'on a constaté très vite, c'est qu'il y avait une odeur spécifique de la sueur des gens qui étaient positifs Covid par rapport aux autres. Ensuite, il a fallu passer par tout un tas d'étapes de recherche standardisées, preuves de concept, validation, détermination des sensibilités, spécificités, etc. Et là, maintenant, on passe en phase proactive. On l'avait déjà fait au mois d'août dernier en Corse, sur des clusters. Et là, on a une grosse manip lancée par la région Île-de-France sur 2000 jeunes asymptomatiques, donc de collège, de l'école vétérinaire.
Ça veut dire concrètement, Dominique Grandjean, que vous arrivez avec vos chiens qui ont été formés et que vous leur proposez de sentir un échantillon de personnes, c'est comme ça que ça se passe ?
C'est pas un échantillon de personnes. En l'occurrence, pour l'instant, on est sur des échantillons de sueur qui sont prélevés sous les bras, parce que sous les bras, c'est
donc
pas de contamination.
Donc là, on est sur le même principe que dans la détection du cancer.
Ouais, exactement. Sauf que la question qui se pose, et ça a été fait, on l'a fait avec les Émirats Arabes Unis, qui d'ailleurs nous ont envoyé des chiens pour nous donner un gros coup de main là. On sait que le chien peut marquer des personnes assises ou des personnes debout. Simplement, la problématique qui se pose, elle est double. Ça peut être une problématique religieuse. Des fois, le chien n'est pas forcément considéré comme un animal qui peut vous approcher ou vous toucher. Et puis, la problématique phobique aussi, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui sont phobiques au chien.
Oui.
Donc, même si le chien est un peu plus amical, ce problème-là est à lever. Donc, on travaille aussi, on a un centre qui s'est ouvert à Bordeaux, avec le CHU de Bordeaux, dans lequel ils travaillent, eux, de manière un peu plus spécifique sur des prélèvements rapides qu'on ferait avec des compresses qu'on se passerait simplement dans le cou.
D'accord.
Et ensuite, on donne ça aux chiens. Voilà. Donc, on avance bien. La démonstration de l'efficacité, elle est faite. Ça, c'est
alors,
clair.
Justement, quelle est l'efficacité et comment le chien vous manifeste-t-il le fait qu'il ait détecté que la compresse qui vient de Madame Michu est porteuse de la Covid-19?
Le chien, on le forme en fait en le récompensant chaque fois qu'il est amené à sentir une compresse ou autre chose positive. Voilà. Mm-hmm. Donc il sent ça, il a son jouet, il sent ça, il a son jouet. Et bon, donc il associe l'effluve en question à sa récompense. À partir de là, on introduit des négatifs, on rend les choses de plus en plus difficiles. Et en fait, c'est un jeu pour le chien, très clairement. C'est je vais jouer avec papa, je vais récupérer mon jouet. À partir de là, c'est relativement enfin, c'est pas si simple, mais c'est pas trop difficile d'essayer d'envisager les mesures qu'on peut mettre en œuvre au plan pratique pour faire de ce jeu, si je puis dire, quelque chose qui est utile à la société. Mmh. Donc le chien, il se manifeste comment? Pour répondre à votre question, bah, il peut se manifester en s'asseyant devant le prélèvement, il peut aboyer, il peut mettre sa patte dessus, enfin, à la limite, la manière dont nous, on préfère qu'il s'assoie, parce que si un jour on travaille sur des personnes
oui,
directement...
Oui, c'est mieux que de mettre la patte dessus.
C'est mieux qu'il s'assoie. Mais en même temps, il n'y a rien d'agressif ni méchant là-dedans. Donc, quelque part, il se manifeste comme il veut, quoi.
Et quels sont les résultats? Le chien abonde dans combien de pourcentage? Dans quelle proportion?
Bah, là, on est sur des fourchettes de sensibilité en fonction des chiens, qui oscillent entre 89 et 95-96%, voire pour certains chiens Top Gun, on est à 100%, et sur des spécificités qui sont en moyenne de l'ordre de 96%. Alors la sensibilité, ça veut dire que le chien ne rate pas un positif,
oui.
Et la spécificité, ça veut dire qu'entre guillemets, il ne rate pas un négatif, c'est-à-dire qu'il ne va pas marquer positif quelque chose de négatif.
Donc ce sont des résultats qui sont excellents.
Oui, par rapport aux méthodes actuelles de test, c'est vraiment d'excellents résultats. Et donc derrière, moi je ne cherche pas à ce que le chien soit positionné comme quelque chose qui concurrence les PCR, c'est pas du tout l'objectif. Je pense que ça peut être un pré-test de masse très efficace.
Oui.
Et ensuite, les gens qui sont positifs, on le sait tout de suite, quand on a un cluster ou dans d'autres situations, on leur demande de s'isoler et puis ils suivent la filière PCR standard, ce qui permettrait déjà peut-être d'économiser 80% des PCR qui sont faites actuellement, d'agir plus rapidement sur la notion d'isolement, tester, oui. Isoler et protéger. Mm-hmm. Et puis après, on a d'autres situations qui peuvent être intéressantes, par exemple les aéroports à l'arrivée, mais aussi au départ.
Bien sûr.
Si on dit aux gens, vous devez avoir une PCR de moins de 72 heures, ils viennent 2 heures avant l'aéroport, ils se font sniffer.
Combien de chiens sont-ils formés aujourd'hui, Dominique Grandjean?
Alors en France, on en a une petite vingtaine, on doit être à 19 aujourd'hui, puisqu'on en a en Corse, chez les pompiers et les gendarmes de Corse, on en a chez les pompiers des Yvelines, de Seine-et-Marne, de l'Oise, de Gironde, chez les gendarmes de Dordogne. Donc là, tout ça, mis bout à bout, ça fait une vingtaine.
J'imagine qu'il faut quand même des mois pour former ces chiens. Et à la fois, quand vous nous dites une vingtaine, c'est beaucoup, vu que le projet a été lancé il y a peu de temps, mais c'est dérisoire à l'échelle du pays et du besoin de dépistage.
Oui, c'est dérisoire, parce qu'en fait, le potentiel rapide qu'on a en France de chiens qui peuvent se rendre utiles sans que ça altère leurs autres capacités de travail, c'est en gros 1 millier.
D'accord.
Donc 1 millier, si on considère qu'un chien peut faire... 200-250 coups de nez par jour, ça fait déjà 200 à 250 000 dépistages par jour potentiels. Mm-hmm. Pour former le chien, il faut entre 4 et 8 semaines.
Ouais.
Mais la problématique principale, c'est que pour former ces chiens aujourd'hui, on est obligé de faire appel à des compresses de sueur qui viennent des hôpitaux, donc des produits biologiques. Et au regard de la loi, ça ne peut se faire que dans un cadre de protocole de recherche avec un tas de papiers. Donc concrètement, moi, ce que je fais comme appel... au gouvernement et à Olivier Véran, c'est de faire en sorte que le chien devienne un dispositif médical, ne fût-ce que temporaire, de manière à ce qu'on puisse échapper...
De déverrouiller tout ce système administratif qui empêche d'avancer. C'est votre idée.
Exactement. Mm-hmm. Exactement.
Sud Radio, le meilleur de vos animaux.
C'était le meilleur de Natacha Harry. 10h-11h durant tout l'été. À midi, vous avez rendez-vous avec Pierre Chasseret pour Ça roule. Et juste après les infos, c'est l'heure de retrouver Laurence Perrault et Jean-Luc Moreau pour On parle tôt.